Du 2 au 8 juillet, la Grenouille pose ses micros au cœur du FID, le Festival International du Documentaire à Marseille. Émission spéciale, interview en direct, rencontre chronique au cœur du FID.
1, 2, 3.
So we still start with the pictures, and then the films in the order we project.
Yes, I know. See how we're doing the standard.
Essayer de me présenter brièvement. Je m'appelle Mizia Zin, je viens du Maroc. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rencontre en fait, qui est derrière l'idée du film que je présente aujourd'hui. C'était en juin 2008. Alors, pendant ce moment, je n'avais pas de sujet documentaire pour ma deuxième année d'école. Et j'avais rencontré par pur hasard un groupe d'enfants défavorisés qui entamait une transhumance quotidienne en quête d'eau et de fraîcheur. Si leur histoire m'avait marqué, c'était parce que elle m'avait renvoyé constamment à des épisodes enfui de mon enfance. Et avec eux, pendant ce tournage-là, en fait, en 2008, j'étais comme bombardé par des sentiments de déjà-vu qui envahissaient mon esprit et mon
En fait, cœur. Non, je pars d'une thèse et je ne cherche pas à la vérifier parce que j'en suis convaincu, parce que j'ai vécu certains aspects de cette réalité et je sais que quand j'affirme avec... C'est pas du pessimisme, c'est une affirmation. Oui, il a une dimension négative, mais je pense que c'est la réalité. En plus, ça devient de plus... Ça va de mal en mal, en fait, quand je vois l'état de pas mal d'enfants au Maroc. J'ai l'impression, très sincèrement, et même les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Je pense même qu'on se casse la tête pour comprendre les causes des soulèvements arabes et tout. Et je pense qu'on passe à côté des vraies causes. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans la société, à l'âge de 19 ans, 20 ans, ils arrivent avec une violence sourde qui, quand ils s'expriment, ça fait très mal. Il faut pas s'étonner de voir des gens qui n'ont pas eu d'éducation, etc., qui laissent pousser des barbes et qui vont sauter des lieux ailleurs. Donc voilà, je pense que... Je braque une loupe sur une communauté, sur là où il y a personne qui va pour filmer.
Je pense que c'est ça le.
Ouais.
J'avais devant moi trois éléments pour raconter ce que n'importe quel enfant dans le monde. Les trois éléments en question, c'est l'été, l'eau et la misère. J'avais devant moi trois éléments à travers lesquels je peux raconter ce que n'importe quel enfant dans le monde peut vivre quand il est livré tout seul à toutes les dérives de la société où il vit. Donc, pour passer directement au sujet, voici l'histoire des enfants en question. Voici leur histoire telle que je l'ai connue, telle qu'elle s'est développée aujourd'hui. Et c'est aussi une partie de mon enfance qu'ils m'ont permis de revisiter.
Au début, je ramène ma caméra, je rencontre ces gens, je passe du temps avec eux. Au début, c'est un jeu. Je joue avec eux. On essaye d'inventer des choses, etc.
Pour qu'ils oublient que tu sois là et qu'après...
Oui, si vous voulez, ils n'oublient pas, ils savent que je suis là. Ils savent que je suis là. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire une interview... Un enfant quand il s'adresse à une caméra, il est déjà intimidé, il est intimidé par ma présence et ça crée un rapport de supériorité qui ne sert pas mon film. Mon film, c'est un œil, c'est pas un œil neutre, c'est vraiment braqué. C'est porter une caméra transparente dans une blessure. C'est créer la confusion entre documentaire et fiction. Ça c'est toute une recherche, ça.
En fait, là, t'es en développement, en fait, t'es en post-prod, en fait.
Non, développement, je suis entre l'écriture, je suis entre. Je veux pas, en fait, par exemple, la partie sur la piscine municipale qui est plus compliquée à faire parce que ça se passe dans la ville. Et dernièrement, j'ai essayé de prendre quelques photos. Voilà, c'est très difficile parce qu'il y a toute une histoire qui se cache derrière. En fait, la piscine, elle était. C'est pas privatisé, mais il était donné à quelqu'un pour l'exploiter pendant 5 ans. C'est une piscine publique qui appartient à tout le monde, qui est toujours bondée. Bref, et ce mec, il se trouve que c'est un dealer, il exploite l'endroit pour vendre sa marchandise. Bref, mais cette partie, non, elle n'est pas encore filmée. Pour moi, je peux pas commencer à filmer, je peux pas, parce que pour moi, quand je m'inscris dans quelque chose, ça y est, je peux pas arrêter, j'arrête. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis prêt à faire des sacrifices. C'est à partir de ce moment-là où je suis prêt à être arrêté par les polices, etc. Ça m'est arrivé. Mais je ne peux pas venir juste comme ça pour commencer une aventure. Et je sais qu'il va s'arrêter au bout de quelques heures.
En fait, dans une saison d'été qui est très longue, le seul remède qui est à la portée de ces enfants, en fait, c'est d'aller explorer les interstices de ce côté un peu sombre de la palmeraie de Marrakech, ou même les palmiers, en fait, ils n'arrivent pas à résister, à la recherche d'un point d'eau, d'une flaque. En fait, l'eau, c'est l'eau qui reste d'un été lointain et court. Et c'est une traversée, comme j'ai dit, qui dure des heures, qui contient beaucoup de risques et des fois même des dangers.
Quelles sont tes attentes ?
Ben franchement, déjà le fait d'être sélectionné, moi je m'y attendais pas. On m'a reproché plusieurs fois l'aspect un peu littéraire de mon dossier, que je dis ce qui va se passer alors que dans un documentaire, on pose des questions et on va explorer. Moi j'avais moitié-moitié, j'avais des choses à raconter que je connais très bien. C'était presque des scénarios, quoi. Et après, il y a des choses que j'aime explorer, des choses auxquelles j'ai pas encore de réponse. Et même quand j'ai des réponses, je préfère en avoir plus, sinon mieux.
So I would like to introduce the next project from Israel, the director Roy Rosen, the title of the project Vladimir's Night. Please, Roy.
Archaism for a zombie-like state. They believe that the oldest thing is the future. So an artist who wants to look to the future needs to look to the past, to history. The first thing we are going to see, I put together three different pieces. They kidnap famous people and celebrities. And in the style of a written statement read by kidnapping victims under threat of arms, they force them to read historical jokes. So I don't have time to show you all three. I gave you like a taste of the first two, and then an almost entire joke.
Что ты думаешь, что мир будет слушать тебя из-за того, что у тебя хуёк маленький?
Меня зовут Михаил Гробман. Я известный во всем мире художник, писатель, поэт и мыслитель. Один из основателей второго русского авангарда. Эмигрировав в Израиль, стал лидером Левиафана, одной из самых праведческих и важных художественных.
Vous participez cette année au FIDLAB, au concours. Comment s'est passée cette envie de vouloir participer en fait à ce FIDLAB ?
Michel Lipkes, cinéaste et producteur. Ben, disons que depuis la réputation du festival qui la précède, qui est très grande, t'attire comme cinéaste pour participer avec tes films et l'initiative. Que donc Fabienne, Rebecca et Jean-Pierre ont eu de créer le FIDLAB donne encore une envie plus grande de participer, mais dès le début du projet. On est assez proche de l'esprit du festival comme réalisateur, comme producteur. Et donc, on n'a pas hésité depuis le début de présenter pour la présélection le projet. Et ça a été sélectionné, donc c'est très bien.
J'imagine que vous êtes content d'être sélectionné pour cette sélection.
Mon nom est Mathias Meyer, cinéaste mexicain.
Oui, surtout que j'ai un peu lu les projets qui nous accompagnent et tous les projets ont l'air vraiment intéressants, différents. Et surtout, c'est le cinéma d'auteur que nous aimons. Et aussi ce côté qui ne fait pas la différence vraiment entre le documentaire et la fiction, mais qui parle plus de cinéma et non ne fait pas cette division.
Ce n'est pas votre premier film, et en fait, pour vous, quand même, le Feed Lab, c'est quand même une opportunité de pouvoir concrétiser des projets.
Oui, oui, oui. On ne sait jamais exactement à qui le projet va plaire et tout ça. Mais oui, comme le projet, je pense, est assez universel, même si c'est très local, c'est quand même universel, même si c'est historique, ça parle de nos jours. Et puis, c'est parlé en français, c'est parlé en anglais. Donc, je pense que la France aussi a un intérêt à produire un projet comme ça, parce que ça parle aussi de l'histoire de la colonisation en France et de la colonisation en Angleterre. Ça parle aussi de deux visions différentes du monde, d'une collision aussi entre deux genres de civilisation et comment on devrait peut-être écouter les peuples natifs et pas tellement l'argent, la modernité. Pour moi, ce film aussi parle d'un moment où le capitalisme sauvage commence et c'est une espèce de boîte de Pandore. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Est-ce qu'on va exterminer ? On a déjà exterminé les bisons. Est-ce qu'on va exterminer la planète aussi ?
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce film, en fait ?
J'aime le cinéma de Mathias. Il a un compromis avec l'histoire. Il trouve le système créatif pour s'approprier de l'histoire, non, d'une certaine façon. Il fait des films. Il a fait un film historique. Il va faire un autre film historique très atypique dans le sens où de comment on est habitué à percevoir l'histoire dans le cinéma, d'une façon très glorifiante, d'une certaine façon. Oui, 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 parfois oui, ironique aussi. Et bon, ce qui est intéressant aussi dans le cinéma de Mathias, c'est qu'il y a un sens critique, parce qu'il essaye toujours de trouver le côté non officiel de l'histoire, comme son film de Cristello. C'est des choses qu'on t'apprend peut-être dans le système éducatif mexicain, mais tu passes vite, tu te dis un jour et tu vas un peu par la périphérie. C'est un peu la même chose avec la commune de Paris peut-être ici, et la même chose un peu avec le personnage de lui réel. Je trouve que c'est très bien que Mathias ait choisi ce sujet pour parler sur le Canada. C'est quand même une culture qui a une histoire assez turbulente, parce que de toute façon toute culture qui a une histoire coloniale, il y a une turbulence. Mais on veut toujours éviter de parler de ces choses-là, parce que c'est déjà aller en contre du système qui a fondé une société et une culture. Et disons que les Américains, les gringos, quoi, eux, ils ont un sens critique, même dans leur système de représentation hyper romantisé, maximal. Mais les Canadiens n'ont pas ça. Moi aussi, j'ai vécu à Montréal il y a 10 ans, un truc comme ça. Et on dirait que c'est ils vivent dans le présent, le passé n'est pas très accrédité. Et c'est toujours pour ces questions-là, quoi. Quand tu viens d'une culture tellement fière comme les cultures nord-américaines, pourquoi mettre en question un système, quoi? Même si c'est un système qui a ravagé les cultures animales, humaines, au bénéfice de l'industrialisation et de l'apprivoisement d'un espace et ses ressources. Et voilà. Et
Mathias, il y a un dicton qui dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Vous voulez donner la parole aux perdants, entre guillemets ?
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est jeter un peu de lumière sur des parties qui n'ont pas été racontées. Et puis, Louis Riel a dit, quand il est mort, avant de mourir, il a dit « Dans son temps, ça va être les artistes qui vont parler de moi ». Il voyait déjà, il avait une conscience aussi de quel personnage il était en train de représenter à cette époque-là. C'est aussi pour ça qu'il a beaucoup écrit. Donc oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme disait Michel, les Canadiens, je pense, vivent beaucoup dans le présent. Ils veulent profiter de la vie, etc. Mais ils font pas d'autocritique aussi, non. Et puis Riel était accusé d'être un fou parce qu'il se considérait prophète. Mais lui disait au gouvernement, mais c'est qui est fou? C'est le gouvernement qui assassine des peuples entiers, la culture. C'était eux les premiers colonisateurs, les métis et les autochtones qui étaient là. Où est la folie? Et aujourd'hui aussi, on voit ça, le Canada, qui ont dans leur drapeau une feuille d'érable, mais on connaît que c'est un empire de mines, au Mexique, en Amérique latine, en Afrique, ils abusent, ils détruisent des communautés, ils divisent des communautés pour leur propre bien. Et eux doivent faire, je pense, de l'autocritique et contrôler mieux ça aussi.
La 24e édition du FID, c'est du 2 au 8 juillet sur les 3-8 et sur radiogrenouille.com.